peur, Yves?
Non.
T'as peur, Yves? Non, pensez. Là. Il a affronté les intempéries, bah, oui. De bord. Debout, tout seul, dans le sud-ouest.
L'Aude, c'est dans le sud-ouest?
Non. Ah, quand on regarde la carte, quand même, hein, c'est. Non. Si tu divises en 4, comme ça, l'autre,
là, il connaît pas sa géographie.
Ça s'arrête à Tarbes.
Tu sais, pour un Niçois, tout est dans le sud-ouest.
Tout est à l'ouest.
Et à l'ouest et au nord.
Non, en fait, on plaisante, mais c'est une tempête qui a fait des dégâts matériels, mais pas seulement, puisqu'il y a eu un mort cette nuit. C'est un chauffeur poids lourd qui est décédé. Une branche d'arbre est tombée sur lui. Il y a aussi un blessé, gravement blessé. C'est ce que Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a annoncé en intervention à Castelsarrasin à la suite d'une chute d'arbre également sur le véhicule. Donc tout le monde est mobilisé, les pompiers, les services de l'État. Il y a 850 000 foyers privés d'électricité. Elle a balayé le sud-ouest, cette tempête Nils, avec des vents très forts. D'ailleurs, Météo France a dit que c'est une tempête d'une force peu fréquente. Il y a eu des vents jusqu'à 162 km/h. Et malheureusement, ce n'est pas la première tempête hivernale. On va de tempête en tempête. Et lorsque vous interrogez les spécialistes, ils nous expliquent qu'avec le dérèglement climatique, il y aura de plus en plus de tempêtes, de plus en plus de pluie l'hiver. Et il fera plus chaud et plus sec l'été. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Faut-il s'y habituer, être résilient? Faut-il s'adapter? Par exemple, enterrer peut-être davantage les poteaux électriques pour éviter ces coupures? Peut-être un peu plus écouter les messages de prévention, parce que on a encore des gens qui prennent la route alors qu'on leur déconseille de prendre la route. Bref, est-ce qu'il faut être peut-être plus vigilant?
Yves, qu'est-ce que tu en penses, ces tempêtes dans le sud-ouest? Parce qu'elles sont à répétition maintenant. Hein.
Oui, elles sont à répétition. Moi, c'est le dérèglement climatique. C'est vrai que c'est de plus en plus inquiétant. Mais après, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est vrai qu'il faudrait peut-être essayer de réfléchir par rapport à l'électricité, d'enterrer tous les poteaux, que tout le réseau électrique soit sous terre. Ça protégerait. Mais malheureusement, après, la nature, c'est la nature. Hein. Quand Dame Nature a décidé de se mettre en colère, elle se met en colère. On subit.
On peut quand même faire des choses. C'est par exemple nettoyer davantage les cours d'eau, peut-être arrêter de construire dans des zones inondables, même si on fait ça va être compliqué.
C'est compliqué quand on parle de l'Aude et on parle par exemple des PO, des Pyrénées-Orientales, ils ont pris 600 millimètres d'eau en 2 mois. En général, c'est ce qu'ils prennent en 2 ans. Et les PO, ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas eu d'eau.
Les PO, c'est les Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales, oui. Donc c'est très compliqué.
Oui, de 2 ans de sécheresse.
Aujourd'hui, quoi. C'est vrai qu'on arrive sur des zones qui sont tellement sèches. Ils sont plus capables d'absorber l'eau et obligatoirement derrière.
Tu sais que je regarde les compagnies d'assurance Meilleur Taux qui a sorti une étude. C'est le sud-ouest global et la façade méditerranéenne où les primes d'habitation augmentent le plus chaque année. De 8 à 12% à cause des tempêtes à répétition.
C'est ce que j'allais dire. Moi, c'est pas la tempête en elle-même qui me fait peur. C'est la pénalité que vont avoir ces gens. Alors que encore une fois, il devrait y avoir des obligations maintenant constructeurs dans ces zones-là pour que les habitations soient sécurisées. Je pense pas que ce soit hyper compliqué de, au moins, quand on sait qu'arrive l'hiver, de lester tous les poteaux électriques, de nettoyer les cours d'eau. Il y a plein de choses qui peuvent être faites en amont, mais encore une fois, je suis désolée, c'est une défaillance. Alors là, pour le coup, peut-être pas de l'État, mais des régions. On doit se préparer à ce genre de choses. Maintenant, on sait que ça arrive.
Il y a eu des messages de prévention.
Oui, mais les messages de prévention, d'accord. Mais tu le disais tout à l'heure, nettoyer les cours d'eau, c'est tout bête. Oui. Tu peux nettoyer les cours d'eau, tu peux préparer des choses.
C'est bien de parler de nettoyer les cours d'eau. L'écobuage qu'on faisait dans les cours d'eau, historiquement, l'hiver, on arrive à faire brûler le lit des cours d'eau pour les nettoyer. C'est interdit maintenant avec l'écologie.
Mais c'est exactement.
On a un non-sens à un moment donné.
J'allais y venir.
Entre l'écologie, qui savait qu'il faut préserver des espèces, tout ce qu'on veut, mais il y a aussi le bon sens paysan qu'il faut entretenir et il faut accepter des contresens écologiques, mais qui vont permettre.
Tu lis dans mes pensées.
Sachant qu'on a beaucoup construit dans des zones aussi où on n'aurait pas dû. On a délivré des permis de construire pour faire des zones commerciales, des zones d'habitation qui étaient aussi avant des zones d'évacuation naturelle. Barbara.
Bah oui, la question de l'artificialisation des sols, elle est pas à mettre de côté. Et par ailleurs, les zones qui sont les plus touchées ici, c'est les villages et les petites villes, les zones périurbaines même, je dirais. C'est pas les grandes villes ou les villes moyennes qui n'ont plus de qui sont privées d'électricité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on a un pays qui est urbanisé à 70%, honnêtement, je crois que les pouvoirs publics en ont strictement rien à faire de ce qui peut se passer dans la ruralité et dans les espaces périurbains. Tant que ça vient pas priver d'électricité la ville où siègent le conseil général, le conseil régional et toute la...
Donc le quartier des ministères n'est pas privé d'électricité.
Bah voilà, voilà, c'est le jour où la populace ou la tempête arrive dans les centres-villes.
De réparer
là, on s'inquiète. Voilà, non mais tant que c'est le rural et le périurbain qui n'a pas les moyens de se loger en centre-ville, qui va habiter dans les lotissements d'ailleurs bien souvent construits. Pas toujours, mais enfin, quoi, certaines fois, les mochetés des lotissements dans les zones inondables, ben voilà, c'est pas grave, on n'en a rien à faire. Après, il y a bien entendu la question du dérèglement climatique, mais je crois que ça a été dit précédemment. Ça se télescope, c'est-à-dire des faiblesses dans l'aménagement du territoire. Aucune réflexion dans comment on développe le tissu urbain, on laisse la métropolisation continuer de gonfler et donc les populations reléguées, bah écoutez, ils se prennent la tempête, ils se prennent les inondations, ça va passer, vous inquiétez pas, privé d'électricité encore une fois. Tant que ça n'arrive pas aux urbains, on s'en fout.
Tout ça a un coût économique. Par exemple, les trains sont perturbés, donc il y a des gens qui n'iront pas bosser aujourd'hui. Il y a des chiffres d'affaires qui ne vont pas se faire. Il y a effectivement la mobilisation des services pour rétablir l'électricité. Tout ça a un coût. C'est-à-dire, on peut pas simplement dire bah c'est la fatalité. Ça se chiffre. C'est de l'argent dépensé.
Oui, mais
surtout si on nous dit qu'elles vont revenir régulièrement
et du côté des assurances.
Oui, mais tu regardes. Je veux dire, le conseil est très rapidement fait. Là où elle a raison, Barbara. Tu regardes sur une ville moyenne. Tu vois les poteaux électriques, ils sont beaux. Ils sont en fer, ils sont bien droits, ils sont bien tenus. Tu vas dans le village d'à côté, dans les villages où moi j'ai grandi, tu vois, t'as l'impression que c'est le tronc d'arbre qui a été arraché, oui. Qui a été posé, le truc, tu souffles dessus, il tombe. Après, faut pas s'étonner qu'il y ait des accidents. Tu regardes, ne serait-ce que le nettoyage des bords de route où t'as des arbres à moitié canés qui sont à deux doigts de tomber sur dès qu'il y a un coup de vent, les gens ne sont pas traités à la même enseigne. Et là.
Et c'est la responsabilité des élus locaux.
Et c'est pour ça que je disais que là, c'est pas l'État, je dirais plus que c'est la région, voire les mairies, qui doivent prendre le truc à bras le corps.
Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de fonctionnaires dans les collectivités territoriales pour s'occuper de ça, bien entendu. C'est vraiment pas l'endroit où il y a eu le plus de fonctionnaires.
Ils n'ont pas plusieurs pour la même chose.
On a un coup de fil qui vient de Pessac, justement. C'est en Gironde. Ah oui. Bonjour, Guillaume.
Bonjour Laura. Mais bien sûr qu'il y a du vin, Laura. Ah. On avait parlé au
il y a de l'eau en ce moment et du vin.
Alors, est-ce que
le vin, du coup.
Est-ce que ça continue de taper, ouais. Guillaume, ou c'est fini là?
Non, ça continue. Cette nuit, ça a été assez impressionnant au niveau son. Alors nous, on a de la chance, on est quand même. Vous en parliez de l'urbanisation, etc. On est à Pessac, donc c'est quand même. On est quand même relativement protégé par les uns et les autres, en fait, les constructions.
Oui.
Donc ça va, mais c'était quand même très impressionnant ce matin. Enfin, à 4h du matin, je suis allé remettre la bâche que j'ai sur la voiture et c'était un peu compliqué parce qu'il y avait, c'était un peu détaché et toutes les poubelles de la rue étaient par terre, toutes. Alors ça c'est pas très grave, hein, vous allez me dire, mais ça veut dire que ça a été violent ici, donc j'imagine là où ils sont pas protégés.
En Corse, c'était 157 km/h et c'est encore en alerte rouge là, ouais. Aujourd'hui en Corse.
J'ai cru voir du 160 hein, par chez nous.
C'était
jusqu'à 160.
Mais à votre avis, que faut-il faire maintenant, Guillaume, alors? Est-ce qu'il faut revoir certaines infrastructures? Est-ce qu'il faut revoir des plans urbains, d'aménagement urbain, dites-moi?
Mais déjà, les plans d'aménagement urbain, il faut les revoir et pas que pour la tempête. Hein. Ça serait pour enterrer les fils électriques, déjà pour que ce soit plus joli et plus efficace. Après, moi, des tempêtes, entre guillemets, dans la région... Je trouve pas que j'ai 50 ans, j'ai pas l'impression qu'il y en ait plus qu'avant. Elles sont plus violentes.
Elles sont plus fortes.
Peut-être. Mais
plus moi, intenses.
Quand j'étais petit dans l'entre-deux-mer, j'ai vu une tornade. Hein. Donc, quand j'étais petit, il y a une quarantaine d'années. Donc, si vous voulez ça, je sais pas. Mais la violence est là. Et en tous les cas, là, j'avais un repas. Alors, je suis en télétravail aujourd'hui, mais j'avais un repas prévu à midi. Et la personne nous a envoyé des vidéos et des photos de la route. Là, en revanche, côté Marmande, c'était assez apocalyptique. Hein.
Ah oui. Mais tu regardes, c'est les conséquences qui sont de plus en plus graves. Et on en revient toujours aux mêmes choses. Sous prétexte parfois d'écologie, on a arrêté des choses qui fonctionnaient très bien. On a construit
L'écologie, elle t'alerte aussi du dérèglement climatique.
Là, on parlait par exemple du nettoyage des rivières. On ne le fait plus, donc ça crée des conséquences chaotiques.
Allez-y, Guillaume, vous disiez.
Mais t'as raison, Laura, c'est le paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'on veut avait plus blanc que blanc, sans réfléchir. C'est-à-dire qu'on va avoir les vilains agriculteurs qui raclent les cours d'eau, qui font n'importe quoi d'après les gentils écologistes. Et on n'a pas de pragmatisme, en fait. On pourrait quand même allier écologie, environnement, du coup. Moi, je préfère dire environnement qu'écologie, mais on pourrait allier environnement et technique ancienne pour justement préserver tout ça. Parce qu'il n'y a pas que l'environnement qu'il faut préserver. Il faut préserver aussi nos façons de vivre et notre santé.
Mais vous voyez, on va prendre un exemple, Guillaume. À la fin des années 70, à Nice, au moment de la construction de l'extension de l'aéroport, il y a eu un mini-séisme qui a fait malheureusement beaucoup de morts avec un petit tsunami. Suite à ce mini-séisme, on a regardé les études et on s'est aperçu que toute la région et toute la côte étaient sur une faille.
Ah oui.
Qu'est-ce qu'on a fait derrière ? On a demandé à ce que les nouvelles constructions soient notamment sur les normes antisismiques. Bon, peut-être que ce tremblement de terre arrivera forcément un jour, mais et donc aujourd'hui, on a fait beaucoup de normes sur antisismiques dans les matériaux de construction. Dans les régions qui sont maintenant connues, ciblées pour les inondations à répétition, dans le nord de la France ou dans le sud-ouest, qu'est-ce qu'on a changé au niveau des normes, tu vois, ou des nouvelles constructions, ou des zones d'évacuation? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que finalement, quand tu regardes le nord, et tu peux d'ores et déjà mettre un billet qu'à la Toussaint prochain, les mêmes régions, les mêmes villages, les mêmes habitants connaîtront les inondations. C'est ça de se dire, tu vois, qu'est-ce qu'on fait en amont suite à ces événements à répétition pour que ça change, pour préserver les gens?
La seule chose qui a changé, c'est que sur ton contrat d'assurance, il y a marqué que si tu as acheté en zone inondable avec un risque...
C'est pas de la prévention. Donc,
Sauf que c'est la seule chose qui a été faite. Des maisons sont détruites, on les reconstruit exactement de la même manière qu'elles ont été faites de base, en sachant que la plupart du temps, les assurances ne couvrent pas les victimes. On n'a pas changé les matériaux, on s'est pas mis à enterrer les fils électriques, on s'est pas mis à faire des fondations plus profondes pour éviter certaines choses, on n'a pas créé des maisons, c'est surélevé. Enfin, je sais pas.
Peut-être qu'aujourd'hui, tu as raison, il y a des endroits où il faut mettre un petit peu plus d'évacuation.
Ça avait été l'une des leçons tirées de la tempête Xynthia, en disant qu'il faut des maisons à deux étages parce que tu vas te réfugier au deuxième étage.
Tu parles de Nice, grande ville, grande population, donc ça intéresse les gens. L'Aude, personne n'est intéressé par l'Aude. Ils sont complètement délaissés. Les feux qu'ils ont eu.
La même population.
Les feux qu'ils ont eu dernièrement. C'était une catastrophe. Mais pourquoi ils ont eu des feux? Parce que rien n'est entretenu. Les chemins ne sont pas entretenus. On délaisse complètement nos campagnes. On a une politique aujourd'hui.
Je rassure pas que les campagnes. Ouais, on va voir certaines forêts d'Île-de-France.
On a une politique de Parisiens.
Oui, complètement.
Tout est géré par les Parisiens. Et ils ne voient que Paris. Ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Regardez les ours.
Il y a des élus locaux.
Regardez les ours chez nous, les ours dans les Pyrénées. C'est géré par les écolos de Paris. Qui y aille là-haut? Qui c'est qui va remplacer les bergers? Qui c'est qui nettoie les montagnes?
On en reparlera sur l'eau. Mais bon.
C'est une catastrophe. Aujourd'hui, de toute façon, la France, elle est gérée par un microcosme de Parisiens. Et les campagnes sont totalement délaissées. On les abandonne.
On ne partons pas sur les ours.
Je vois pas bien.
Je remercie Guillaume d'avoir été avec nous. Merci Guillaume.
Merci Alex.
Merci beaucoup.
Bonjour. Allô?
Oui.
Bonjour à monsieur Gerbier, que j'écoute et que j'aime bien.
Ah, Louis Gerbier, bien sûr, c'est notre coproducteur. Alors, Louis Gerbier, vous l'écoutez dans le quiz le soir chez Jérôme Rotten.
Bien sûr.
Et surtout, vous écoutez son podcast sur la Formule 1, Paddock, l'un des podcasts des sports mécaniques les plus connus, qui a beaucoup de succès. Laurent, bonjour.
Oui, bonjour.
Saint-Vivien de Médoc.
Bonjour, Laurent.
En Gironde. Où est-ce que ça en est chez vous, alors, dites-moi?
Oh ben moi j'entends les gens qui flippent pour rien. Il y a eu un peu de vent, c'est vrai, mais il faut pas déconner. Il y a trois poubelles par terre, ça y est. Ah, il y a des poubelles partout. Bah oui, c'est des poubelles en plastique, elles sont dehors.
Il y a
moi j'habite
ça,
tout en haut de la pointe.
Oui.
Donc quand vous regardez la France, la petite bouche, moi j'habite tout en haut de la pointe et au milieu des marais. Donc du vent, il y en a eu. Bah j'ai bien dormi quoi. Mes poubelles oui, elles étaient par terre ce matin, mais bon, oui, c'est bon quoi.
Après donc, on a arrêtons d'en faire trop, c'est ce que vous dites.
Mais ouais, mais c'est pareil. Enfin, il y a de l'eau. Oui, il y a de l'eau. C'est vrai.
Il y a quand même 850 000 foyers qui n'ont pas d'électricité ce matin.
Ouais, mais ça, c'est normal puisque les traînées sont entretenues. Bon, ça tombe, mais c'est pas dramatique non plus. Genre, dans la journée, on va récupérer l'électricité. Enfin, 99, ça a duré plus d'une semaine, l'électricité dans le Médoc en moins. Enfin, il faut relativiser à un moment donné. Oui, c'est 850 000 personnes. Mais d'ici ce soir, je prends le pari là maintenant, d'ici ce soir...
C'est vrai qu'aujourd'hui, on a privé d'électricité. Dans notre jeunesse, les coupures, il y en avait tout le temps des coupures.
C'était les délestages, Olivier, on appelait ça.
Et on avait les bougies à la maison. Et quand t'étais môme, t'adorais ça, parce qu'on dînait le soir à la bougie.
On appelait ça les délestages, parce que ça permettait de soulager un peu le réseau électrique face à la demande.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on est habitué à un confort, et dès que ce confort est menacé, c'est compliqué.
Il y a un point qu'a soulevé quand même Yves que je trouve intéressant. Le fait qu'il n'y ait pas d'entretien, notamment des espaces forestiers. Et là, je dis même en région parisienne, d'accord, il y a des forêts domaniales, il n'y a pas d'entretien. D'accord, je me balade beaucoup en forêt.
On va te dire
forêt.
Manque de personnel.
Non, mais ce manque d'entretien, vous avez une intempérie, deux intempéries, à chaque fois, il y a des dégâts. Mais comme on les nettoie pas, on ne met pas de l'ordre, les problématiques, notamment dans les espaces forestiers, ne font que s'accumuler. Et moi, je le vois bien. Depuis plusieurs années, il y a des espaces forestiers autour de chez moi, autour de Versailles, mais même plus loin que Versailles, qui ne sont visiblement pas entretenus. Et ça ne fait que s'aggraver. Et aujourd'hui, au moindre coup de vent, tu te prends une branche sur la tronche.
C'est vrai.
Alors qu'avant, avant que la branche elle tombe, comme à chaque fois c'était relativement entretenu, nos forêts sont plus des forêts primaires, ce sont que des forêts artificielles.
Après Barbara, il y a une réglementation. Alors moi qui habite dans une forêt, il y a une réglementation pour les particuliers quand on a une maison.
Ouais.
On doit entretenir à 50 mètres de la maison le sol est à 3, je crois que c'est à 3 mètres, toutes les petites branches. Je vis dans un village de 800 habitants. Et je peux t'assurer qu'il n'y a pas grand monde qui le fait.
Bah oui, mais c'est
ils
pour
le
ça.
Pas.
C'est une responsabilité collective aussi. Hein.
Et individuelle.
C'est une généralité, c'est que personne ne prend conscience.
Exactement.
Quoi. Personne ne prend conscience.
Chacun doit entretenir son jardin.
C'est toujours le voisin, le responsable.
Merci à Laurent du côté de la Gironde, Saint-Vivien, de Médoc. Il dit, bon, il ne faut quand même pas s'affoler. Ouais, salut Laurent, ce n'est pas l'apocalypse. Alors, ces tempêtes en répétition, on va simplement regarder votre sentiment. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous avez une petite crainte? Non. À 63%, on a quand même 37% de oui dans cette histoire.